Bonjour, merci d'avoir bravé la chaleur pour venir jusqu'ici, où c'est bien frais. Nous allons parler donc de ce guide donc sur la Gironde, qui a été réalisé entièrement par Guillaume Lachaud, qui est là. Donc un guide, on vous dit habituellement, quand on vous présente un guide, on dit que c'est un guide différent des autres, sauf que là, c'est vrai. Donc c'est effectivement un guide donc différent des autres, en particulier parce qu'il a été rédigé par un véritable auteur, qui s'est occupé à la fois des textes et des photos. Comme tout guide, il a des contraintes, en particulier donc on va dire le découpage à l'intérieur. Donc classiquement, on va retrouver cinq grandes parties dans ce guide, c'est ça, je crois qu'on peut le dire, tout à fait. Donc une première partie plutôt géographique, une partie historique, une partie sur Bordeaux spécifiquement, puisque bien sûr, donc on parle de la Gironde et Bordeaux fait partie de la Gironde, donc c'est quand même donc une partie importante. Une partie sur le patrimoine naturel et au final donc une dernière partie sur la culture girondine.
Voilà. Savoir-faire. L'identité, savoir-faire, Gironde.
C'est ça. Voilà, une présentation d'un guide, effectivement, dans sa facture, qui peut sembler assez classique. Mais à l'intérieur, comme je vous le disais, il y a un véritable travail d'auteur, et en particulier dans le choix du fil conducteur de cet ouvrage. Il y a un fil conducteur dans ce guide. Alors, la facilité aurait été de choisir le vin comme fil conducteur. Eh bien non, donc l'auteur n'a pas choisi ce fil rouge-là, il a choisi l'eau, donc ce qui peut sembler étonnant dans un premier abord, mais on verra que c'est tout à fait pertinent de choisir l'eau comme fil conducteur de ce guide. Que dire d'autre avant de laisser la parole à Guillaume? C'est en toute objectivité un très bon guide. On insistera sur deux points particulièrement importants, les photos. Toutes les photos ont été réalisées par l'auteur aussi ici présent. Donc un gros travail photographique et une écriture très fluide. Quand le thème est l'eau, c'est normal. Vraiment un style agréable à lire. Fait partie effectivement des talents de cet auteur. Je ne vais pas monopoliser trop longtemps. Je voudrais juste commencer par présenter ton parcours. Donc, tu es professeur d'histoire de l'art et photographe professionnel depuis 2 ans.
Oui, ouais, un petit peu plus que 2 ans. Ça fait 4 ans à peu près que j'ai cherché à donner un peu plus de dimension à cette passion photographique est ancienne pour moi. J'ai pratiqué en amateur, comme beaucoup de monde, depuis très longtemps, depuis que j'ai 15 ans. Et j'en ai toujours fait, voilà. Et j'ai voulu effectivement donner un peu plus de corps à cette activité. L'enseignement étant une activité prenante, mais qui laisse aussi du temps libre, comme certains le savent sans doute. J'ai pu développer un peu cette activité-là avec une formation évidemment forcément très empirique et puis un peu plus poussée sur la dimension professionnelle. Avec un photographe professionnel installé à Bordeaux qui s'appelle David Hellman et qui m'a aidé à faire ce virage. Et donc aujourd'hui j'ai un petit peu les deux activités à mon arc, on va dire, c'est-à-dire la photographie et l'enseignement. Je reste enseignant au lycée de Mérignac. En histoire de l'art. Et puisque je parlais du photographe qui m'avait en partie aidé, même largement aidé, David Hellman, le photographe bordelais, qui m'a aidé, qui continue d'ailleurs à le faire, puisqu'on continue d'échanger et de parler aussi de formation. On a fait ça encore très récemment, il y a 15 jours, travailler ensemble et échanger sur la photographie. Donc voilà une dimension un peu professionnelle sur la photographie. Je ne suis pas photographe professionnel, je reste enseignant. C'est mon activité principale, mais je suis, semi-professionnel en photographie, puisqu'il y a eu des publications et quelques contrats photographiques pour des musées, des monuments historiques, pour lesquels j'ai fait des reportages, en vue de publication ou pas, ou pour la communication des bâtiments en question. Et donc, c'est une activité que je cherche un petit peu à développer à côté des heures d'enseignement et des élèves. Voilà.
Bien, on peut dire aussi que cette démarche a tout de suite été professionnelle au final, puisque tu as rapidement eu un contrat avec un premier monument qui t'a permis de te lancer de façon professionnelle, on va dire, dans la photographie.
Voilà, ça c'est lié à mon parcours. Avant l'enseignement, j'ai travaillé dans les monuments historiques, justement, et le premier client, entre guillemets, ça a été mon premier employeur, qui m'a demandé justement de lui livrer des images de qualité pour la communication, aussi pour une publication. Avant ce guide-là, chez le même éditeur, j'ai écrit un livre sur le château, c'est le château de Castelnau en Dordogne, vous devez pouvez le connaître parce qu'il est assez connu. Voilà. C'est un château qui accueille beaucoup de monde, qui a une activité assez importante dans les périodes touristiques, hein, puisqu'il y a un musée. Donc j'ai travaillé d'abord dans ce bâtiment. Et à l'époque, j'avais écrit le guide dont je n'avais pas fait les photos. Et quand ils ont réédité le guide, ils m'ont demandé aussi de faire les images. Voilà, donc c'est un peu comme ça, par l'écriture, en liant l'écriture et la photographie, que ça m'a mis le pied à l'étrier pour aller dans cette direction-là. Et voilà, le livre-là qui vient de sortir aboutit un peu cette démarche. Voilà.
Bien, ce livre donc, qui est consacré à la Gironde, donc ça veut dire que tu as arpenté le département de long en large, en travers. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as découvert de ce département que tu ne connaissais pas et peut-être ce qui t'a particulièrement marqué, quoi,
ouais. Alors, moi, effectivement, je ne suis pas girondin de naissance, même si je suis venu là depuis le plus jeune âge, mais j'y venais en vacances et je suis girondin depuis un peu plus de 10 ans seulement. Donc, je ne connaissais pas la totalité du département, qui est grand. C'est la première chose que j'ai mesurée en appréhendant la commande de l'éditeur. C'est la taille du département. C'est le plus grand département français. Et donc, effectivement, je me suis beaucoup promené. Et il y a une partie que je connaissais vraiment mal et que j'ai découverte avec ce guide, c'est l'estuaire. L'estuaire de la Gironde qui est vraiment un horizon très particulier que je connaissais très mal. Le reste, j'étais déjà allé de façon assez récurrente dans l'Entre-deux-Mers ou dans le sud Gironde même. Beaucoup, bien sûr, sur le littoral et le bassin, un peu comme tout le monde. Et l'estuaire est moins connu et c'est peut-être, voilà, si je peux répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai découvert ça ? J'ai découvert l'estuaire. Et son identité, ses couleurs, sa lumière, ses bâtiments, et des deux rives en fait. Il y a une rive qui est complètement girondine, c'est la rive du Médoc, et puis il y en a une autre, vous savez, qui est partagée avec le département des Charentes. Et alors, justement, même si le département est grand, par rapport à la cohérence du propos général, j'ai voulu, je parle aussi de la côte charentaise de l'estuaire, qui n'est pas dans le département stricto sensu de la Gironde, mais qui, pour moi, fait partie de, voilà, précisément de l'identité du département. Et donc le fil rouge dont Christophe vous a parlé sur l'eau, je ne pouvais pas parler de l'eau et en particulier évidemment parler de l'estuaire en me contentant juste de la partie girondine et en oubliant un gros quart qui était la partie charentaise, dans laquelle il y a des bâtiments que je croise forcément dans le livre, comme l'église de Talmont, que vous connaissez peut-être, qui est une icône un peu justement de l'estuaire, de la Charente aussi, puisque c'est en Charente, mais qui est évidemment présentée dans le guide.
Donc un aspect remarquable du guide, ce sont les photos, hein, donc 250 photos originales, donc ouais. Toutes photos faites uniquement pour ce guide, hein, donc ce sont des créations à chaque fois. Donc original, aucune retouchée par Photoshop,
faut le préciser. J'ai pas Photoshop, donc.
D'accord, voilà, donc aucune retouchée.
Si, il y a des ajustements de lumière, alors je vais pas rentrer dans la technique fine, mais je recadre, je règle l'intensité lumineuse ou la saturation, etc., comme tout le monde peut le faire, avec un autre logiciel que Photoshop, mais il n'y a pas de bidouillage, quoi, voilà. S'il y a quelque chose qui me gêne dans l'image, parce que ça ne convient pas, s'il y a un panneau de sens interdit dans une rue, ben je me déplace pour ne pas l'avoir dans le champ de vision. Et on peut l'enlever aussi par Photoshop. Mais là, il y a une lampe, par exemple.
Voilà, effectivement, si, très belle lampe, donc n'a pas été retirée.
Mais là, non, elle est restée. C'est un choix aussi, hein, voilà, c'est un choix de cadrage. Je parle sur le contrôle du photographe.
Donc 250 photos, c'est-à-dire que tu as pris combien de photos en tout pour arriver à ce choix final qui a dû être difficile, hein ?
C'est 2 ans de promenade avec des photos presque à chaque fois, donc je crois que j'ai compté 8000 photos en tout. Voilà, donc il y a un choix qui s'affine au fur et à mesure, petit à petit, et voilà, donc oui. Ça, c'est un petit peu une obligation de couvrir le plus largement possible et d'avoir un choix le plus vaste possible en photographie. On est un petit peu obligé de travailler comme ça. Et le numérique, maintenant, permet de ne pas griller de la pellicule comme on le faisait avant avec l'argentique. Et ce n'est pas trop onéreux, du coup, de multiplier les images. Ça fait plus de travail au niveau de l'editing, c'est-à-dire du choix final du catalogue. Mais voilà, cette photo-là, par exemple, tu peux la montrer. C'est une photo du Mascaret. Je vais vous présenter le Mascaret parce que ça fait partie aussi des originalités de la Gironde, l'identité girondine. Ça, c'est une photo que j'ai faite le surlendemain de la, ou, oui, le surlendemain, je crois, de la fête du Mascaret, qui a lieu tous les ans au sud de Libourne, à Saint-Pardon. Et j'ai été invité à la fête pour justement, dans la perspective du livre. Donc les responsables de la fête m'ont dit, mais viens, voilà, viens à la fête du Mascaret, tu pourras faire des images. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis venu et j'ai fait des images. Alors le Mascaret, vous savez, c'est cette vague qui passe et qui est surfée. Lors de la fête, il y a beaucoup de monde sur l'eau, et donc c'est très sympathique, c'est très festif, c'est assez spectaculaire. Et donc j'ai fait beaucoup d'images. Alors là, pour le coup, en photographie, je me suis mis en mode rafale, c'est-à-dire que j'ai fait plein d'images en très peu de temps, parce qu'il passe et puis après, avant c'est trop tôt et après c'est trop tard. Et de cette fête-là, donc je n'ai pas compté combien j'en avais, mais beaucoup, de cette journée-là, je n'ai à l'arrivée retenu aucune image, parce que je suis revenu donc 2-3 jours après, au petit matin. Et voilà, il y a eu la chance d'avoir cette lumière très particulière qui n'a duré que quelques secondes, qui fait ces photos un peu roses. Voilà. Et ce sont ces images-là qui, au final, ont été retenues, et pas du tout les je ne sais plus combien de centaines d'images que j'ai faites, au moins 200 images que j'ai faites le jour de la fête. Donc voilà, les petites surprises de la photographie sur ce genre de projet. Parce qu'on se déplace il y a certains sites sur lesquels je suis évidemment allé sur tous les sites que je présente. Voilà, je le dis quand même, parce qu'il y a des guides où on le voit assez vite, pas le cas. Et pour certains sites qui sont souvent éloignés, il faut aussi ramener des images, donc il faut pas se rater, comme on dit. Je pense au Phare de Cordouan, par exemple. Phare de Cordouan, qui est aussi une icône un peu de la région. Et donc j'y suis allé qu'une fois, mais ce jour-là, voilà, les conditions étaient sympas et j'ai pu faire des images. Les images correctes pour présenter le bâtiment.
Et donc pour prendre ces photos, des expériences aussi donc originales. Donc tu t'es mis en haut d'une nacelle, par exemple, dans différents endroits, pour avoir un angle de vue particulier, donc sur des sites qu'on connaît déjà, donc ce qui leur donnait une autre vision, par avion aussi. Alors la nacelle, ouais. c'était particulier, c'était un petit peu une démarche. Tu disais que tu voulais prendre des photos à vol d'oiseau, donc
ouais,
vue d'oiseau, quoi.
Oui, comme vue d'oiseau, oui. Mmh. Et en particulier sur Bordeaux, parce que je ne me suis pas promené dans tout le département avec une nacelle élévatrice. Donc c'est une petite nacelle élévatrice montée sur un camion et qui permet de monter entre 0 et 20 mètres pour les plus hautes. Et donc ça permet effectivement d'avoir un regard différent sur la ville. Et ça fait un peu partie des touches d'originalité du guide. Ce sont ces images-là, dans Bordeaux en particulier, où j'ai pris un peu de hauteur et je me suis mis, oui, à vol d'oiseau, parce qu'il y a des oiseaux qui volent évidemment beaucoup plus que 10 ou 20 mètres. Mais enfin, déjà, à 20 mètres, on a un angle de vue nécessairement différent sur la ville, sur son organisation et sur les quais, par exemple. Ça donne des perspectives qui sont intéressantes. Comme on est dans une ville, en Bordeaux, particulièrement basse et marquée par l'horizontalité, dès qu'on prend un tout petit peu d'hauteur, même si ce n'est pas 20 mètres, même si ce n'est que 5 ou 6 mètres, on a des angles qui sont un peu nouveaux et qui sont du coup dans le livre, là, qui offrent un regard un peu différent. Après, il y a des photos d'avion aussi. Ouais, j'ai pas
l'avion,
nacelle,
mais
là,
c'est l'avion. Hein.
Oui, c'est l'avion. C'est au-dessus du bassin. Tout le monde a déjà vu des photos aériennes du bassin d'Arcachon. Ça s'y prête vraiment très bien. Et j'ai eu la chance de le faire dans des conditions aussi météorologiques vraiment sympathiques et à marée basse pour que les reliefs justement du bassin ressortent mieux. Donc il y a aussi une dizaine d'images dans le livre qui sont des photos aériennes du bassin qui pour le coup ne sont pas nécessairement originales, mais qui donnent un peu de perspective aussi à cet espace qui est aussi marqué par une profonde horizontalité. Parce qu'en dehors de la dune du Pilat et du cordon dunaire, le relief sur le bassin, c'est ce qui est aussi son identité. Hein, on est dans une région qui est peu vallonnée à part l'entre-deux-mers, mais dans cette partie-là en tous les cas. Et donc les vues d'avion apportent un peu de hauteur.
Et donc autre aspect aussi donc de ce livre, donc quand on va prendre des photos, on rencontre des personnes, d'autant qu'il y a une partie donc on le disait donc de savoir-faire. Donc tu as rencontré notamment tu parlais donc du phare, donc de gardien de phare, mais également une viticultrice donc dont tu fais le portrait et pour laquelle tu as fait je sais plus combien de photos pour en garder 3 dans le livre.
Principe, parce que là en fait. C'était quelque chose que j'ai négocié on va dire avec l'éditeur parce que c'est peu habituel dans ce genre de livre. J'ai voulu pour parler de l'identité du département. J'ai voulu aller vers les gens qui lui donnent cette identité, donc les viticulteurs ou les ostréiculteurs, en particulier évidemment pour le bassin d'Arcachon. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer et d'obtenir, on va dire, de l'éditeur, qui n'a pas été difficile à convaincre, hein, mais d'obtenir qu'il présente dans le livre des portraits de personnes. Donc il n'y a pas que du patrimoine naturel ou du patrimoine bâti, il y a un peu d'humain aussi, des gens que j'ai rencontrés et qui justement apportent par leur savoir-faire, qui apporte un peu de lumière à cette culture girondine. Par exemple, ce monsieur, là, un gémeur, un ancien gémeur, parce que le gémage a disparu, le gémage traditionnel. Donc j'ai pu lui aussi faire son portrait. Voilà, je tenais à ça parce que parler de l'identité de la Gironde sans aller au contact des gens qui la font, ça, je sais pas comment, c'était peut-être trop carte postale. Voilà, ça existe, mais on ne fait que le montrer. Là, j'ai voulu un peu leur donner la parole. Alors, ça reste, voilà, c'est pas non plus un livre qui est dédié à ça, qui ne fait que ça, mais je tenais à ce qu'il y ait cette vision. Et là, la viticultrice, par exemple, parce que oui, si l'eau est le fil conducteur, je parle quand même du vin. On est en Gironde, donc voilà, c'est quand même relativement inévitable. Et j'ai voulu donner cette dimension-là, à la fois le vin très prestigieux. Je suis allé au Château La Dominique à Saint-Émilion, qui est un grand cru et qui est un lieu aussi tout à fait remarquable par son architecture, puisqu'il vient d'être, le chai vient d'être construit par Jean Nouvel, ou réaménagé par Jean Nouvel, et c'est un bâtiment tout à fait remarquable. Donc ça, c'est la partie dans le Médoc aussi, où j'ai pu croiser des propriétés dont on connaît voilà, le prestige bien au-delà des frontières du département. Et j'ai voulu, de l'autre côté, aller voir aussi les viticulteurs, moins connus, moins médiatiques, plus modestes, plus petites propriétés, comme donc, cette viticultrice qui est dans la région de Langon, Françoise Blancan, et qui produit avec passion, qui est toute seule avec son mari pour produire son vin, et qui, voilà, qui a su me transmettre, me faire savoir, me faire connaître l'amour de son métier, et qui est donc présenté dans le livre. Alors là, c'est vrai que je l'ai suivi beaucoup. Je suis allé sur sa propriété un peu à toutes les saisons pour parler justement des saisons de la vigne, puisque toutes les saisons comptent, que ce soit la taille en hiver ou la période actuelle où la vigne est en train de pousser, de fleurir, voilà, ou évidemment les vendanges. Et oui, là, il y a trois photos dans le livre et il y a 800 photos dans mon ordinateur sur cette viticultrice. Voilà.
Bien, donc démarche sur laquelle tu peux revenir aussi, donc on le disait au début, donc c'est assez rare que les guides soient faits donc par une seule personne, c'est-à-dire que c'est souvent donc une personne qui écrit avec quelqu'un qui prend des photos. Là donc une des originalités c'est ça, c'est-à-dire que tu as à la fois donc le rédacteur du guide et en même temps le photographe. Donc sur ta démarche, l'aller-retour que tu as pu faire entre photos et texte est aussi donc là un des atouts de ce livre, c'est-à-dire oui. On sent que c'est pas simplement de la photo en illustration du texte.
Alors après il y a aussi les vilains défauts de sa propre sa propre formation. Donc il y a une dimension très histoire-géo dans le guide, je ne vais pas le cacher. Je rentre dans beaucoup de sites par la notion de paysage, parce que c'est une notion qui est quand même intéressante et qui me semble centrale. Et oui, les images ne sont pas effectivement de simples illustrations, et par rapport à ça, il n'y a pas eu de règle. C'est-à-dire, je n'ai pas fait les photos d'abord et le texte après. C'est, le plus souvent, ça a été ça, mais parfois, ça a été le contraire. Et ce qui, pour le coup, l'a intéressé beaucoup, l'éditeur, c'était d'avoir un propos qui était cohérent entre les deux, parce que souvent, il y a un auteur qui écrit, il y a un photographe qui illustre à côté, et les deux ne se connaissent pas forcément, d'ailleurs. Et donc, ça peut voilà, être un peu, je ne sais pas comment dire, manquer un peu d'âme, ce qui, a priori, n'est pas le cas ici, puisque c'est moi qui, à part deux ou trois sites où je n'ai pas pu faire les images pour des raisons de droit en particulier, mais sinon, voilà. C'est mon regard. C'est mon regard. C'est évidemment moi qui fais le texte, donc c'est aussi mon regard pour la présentation des sites, et c'est le regard que je propose pour présenter les sites qui sont dans le livre. Le principe de présentation, on l'a pas dit, des sites dans ce guide-là, c'est une double page par site qui est présentée. Ça, c'est une contrainte éditoriale. Donc, c'est entre 1500 et 2000 signes par site. Parfois, c'est bien et ça suffit de dire les choses en quelques lignes, en quelques mots. Parfois, c'est un peu frustrant. Je sais pas, je pense à l'abbaye de la Sauve-Majeure, par exemple, que notre ami Hervé connaît bien, qui est au fond de la salle, le spécialiste de la Sauve Majeure. Là, c'est une vraie frustration, parce que j'adore ce bâtiment. Et parler de la Sauve Majeure en 1500 signes, c'est-à-dire en gros une page à quatre, voilà, un petit peu frustrant. On pourrait en faire beaucoup plus, mais voilà, ça fait partie de la, ça fait partie de la contrainte du guide, voilà, de la maquette éditoriale que l'éditeur impose aux auteurs.
Ah oui, donc double page pour présenter les sites et en même temps donc un petit encadré à chaque fois. Donc comme c'est un guide, donc c'est un côté pratique pour se repérer dans les lieux. Donc on peut entrer même les coordonnées donc sur.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être un peu avec son temps. Donc on peut aussi l'idée pour des raisons pratiques. J'ai fait des itinéraires en partant de Bordeaux et en donnant effectivement les coordonnées GPS qu'on peut rentrer pour ceux qui ont des GPS dans le véhicule. On part de Bordeaux et puis on se laisse guider jusqu'au site en question puisque les coordonnées sont là pour ça. Voilà.
Alors, illustration de cette relation entre texte et image, la grotte de Père Nompère. Alors tu vas sur place, le texte n'est pas fait, et là tu fais une découverte en fait.
Oui, c'est-à-dire que je ne connaissais pas effectivement cette grotte, j'ai appris à la connaître et à l'apprécier. Et la première découverte pour moi en venant sur ce site, c'est le bâtiment d'accueil, qui n'est pas la grotte évidemment, qui est le bâtiment d'accueil, qui est assez récent, qui date de 2008 je crois, et qui est réalisé par un architecte qui s'appelle Patrice Hernandez, c'est ça, et qui a fait un bâtiment très très sobre, très réfléchi, très pensé au niveau des matériaux, des lignes et voilà, évidemment je présente la grotte et son contenu. Ça fait partie des sites pour lesquels il y a eu des problèmes de droit à l'image, donc cette image là vient, celle là des monuments nationaux, les autres non, et j'ai voulu parler du bâtiment lui-même. Il y a quelques mots, il y a une image, mais voilà, donc ça fait partie un peu de la liberté que dans le cadre que l'éditeur donne pour le guide, on peut quand même introduire et parler de ce qu'on aime. Par exemple, ici, parler du bâtiment, qui est un bâtiment qui introduit, je ne sais pas si vous connaissez la grotte de Père Nompère, mais on passe par ce bâtiment nécessairement avant de rentrer dans la grotte. Et l'architecture que cet architecte a pensée est vraiment une merveilleuse préparation à la visite souterraine de cette grotte, vers laquelle je vous recommande d'aller, d'abord dans cette température-là. C'est très appréciable. Et puis c'est un petit bijou vraiment, vraiment petit. C'est-à-dire c'est tout petit. La grotte est plus petite que la salle où nous sommes ici. Elle est minuscule, mais elle est vraiment merveilleuse. Donc ça, c'est pas très loin d'ici. C'est en allant vers l'estuaire, précisément. Et c'est un lieu à découvrir.
Autre choix donc, parmi les sites. Hein, donc il y a des passages obligés, par exemple, quand on parle de Bordeaux, hein, cathédrale Saint-André, Grand Théâtre. Et donc un choix donc, auquel tu tenais, toi, la base sous-marine, par exemple, qui est un lieu qui justifie une double page pour toi.
Oui, pleinement. Absolument. Donc ça, c'est pareil, c'est des discussions avec l'éditeur, mais là, aucune difficulté pour le convaincre, parce que je parle de Bordeaux dans un chapitre, donc il y a, je ne sais plus, peut-être une vingtaine de pages sur Bordeaux, et donc nécessairement, on fait des choix, il y a des bâtiments dont je parle, le Palais Gallien ou la cathédrale, et puis d'autres dont je ne parle pas, voilà. Et parmi les bâtiments que je voulais présenter, parce qu'ils sont peut-être un peu moins, justement, publiés dans les guides, il y avait la base sous-marine, parce que j'adore ce lieu. Voilà, c'est un lieu très, très, très particulier, qui a une âme, qui a une puissance d'évocation extrêmement forte. Et donc, oui, c'était c'est un bâtiment, j'imagine, que vous connaissez si vous êtes bordelais, parce qu'il y a quand même des très, très belles expositions régulièrement. Et donc, je tenais à le présenter. Pour moi, ça reste un bâtiment qui fait partie de l'identité girondine, de l'histoire de Bordeaux aussi, même si c'est une histoire récente. Et je tenais effectivement à présenter ce bâtiment.
Donc ce qui ressort à la lecture du guide, hein, donc qui est assez copieux, c'est la richesse aussi de ce département, de richesse de la Gironde, donc la variété des paysages, le littoral, donc le vignoble, les sites et les monuments, hein, donc on peut y retrouver. Donc une extrême richesse donc dans ce département. Et ce qui ressort également aussi, c'est l'âme bâtisseuse un petit peu donc qu'on peut retrouver dans ce département où j'ai appris effectivement que c'était le deuxième département ouais. Pour les bâtiments classés
pour les monuments historiques derrière Paris. Alors c'est en partie lié à la taille du département, il est très grand, donc il y a beaucoup de bâtiments historiques, de monuments historiques dans ce département, mais c'est lié aussi quand même au contexte très particulier de l'histoire de la Gironde, en particulier l'histoire anglaise de la présence anglaise, et puis aussi le fait que se sont croisés dans ce département les chemins de Saint-Jacques, qui ont aussi amené beaucoup de ces monuments historiques, parce que plus de la moitié des monuments historiques girondins sont des bâtiments religieux. Et on a un patrimoine qui est présenté dans un chapitre en soi, un patrimoine religieux qui est vraiment tout à fait remarquable, pas forcément très connu. On connaît bien sûr voilà, la cathédrale de Bazas peut-être, ou la cathédrale Saint-André à Bordeaux, mais d'autres églises dont je parle un petit peu, avec des petits morceaux de merveilles, de sculptures romanes par exemple, et qui sont moins connus, en particulier dans l'Entre-deux-Mers. L'Entre-deux-Mers foisonne de bastides, de villages charmants, de châteaux et d'églises. Et il y a une profusion de sites remarquables, ce qui fait justement quand on se penche sur ce département et qu'on doit nécessairement opérer des choix, et là les choix ont été extrêmement compliqués pour parler de certains sites et pas des autres, voilà. Mais on ne peut pas tout dire. Cela dit, je crois que j'ai cherché quand même à couvrir, dans la perspective d'un guide qui s'adresse au grand public, de couvrir et les périodes différentes et les types d'architecture hein, ou de patrimoine naturel aussi différent. Voilà. J'espère être arrivé à ça. C'était un peu aussi la logique. C'est pas pointu, c'est pas un guide spécialisé. Voilà, c'est pas un livre qui s'adresse aux amateurs du patrimoine médiéval, par exemple, spécifiquement, même si c'est un peu ma partie. J'ai couvert aussi d'autres périodes et on essaye de donner la palette, en fait, de faire découvrir la palette de la richesse de la région, de ce département. Marqué par son patrimoine très riche, effectivement, patrimoine historique, mais par son patrimoine naturel aussi, dont l'estuaire, j'y reviens encore, qui est, je crois, un horizon à découvrir. Tous les Bordelais connaissent le bassin d'Arcachon. Ils sont beaucoup moins nombreux à s'être promenés sur les rives de l'estuaire, par exemple.
Si on en revient donc à ces rives de l'estuaire, quel est l'endroit que tu recommanderais, toi, en tant que spécialiste touristique de la Gironde maintenant ?
Alors, franchement, la promenade vers le phare, c'est très très particulier. C'est vraiment un bâtiment, alors au niveau de l'architecture, qui est plus que remarquable. Et puis le fait de devoir y aller nécessairement en bateau, dans des conditions voilà, qui sont un petit peu particulières. Si vous tentez l'aventure, sachez qu'il faudra vous mouiller les pieds pour accoster. Donc c'est pas une véritable aventure, mais un petit peu quand même, puisqu'on finit au moins les pieds et les chevilles dans l'eau. Voilà, il y a cette dimension océanique, cet infini océanique au pied duquel on est, et la dimension aussi historique de ce bâtiment. C'est un bâtiment où il se passe quelque chose. Voilà, il y a une âme à l'intérieur de ces murs. C'est à la fois connu et méconnu, parce que je ne suis pas certain que tout le monde y aille. Moi, j'étais jamais allé. Je l'ai fait pour découvrir ce site. Et après, l'estuaire, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est peut-être le au-delà d'un lieu précis, le plaisir de la déambulation sous toutes les formes, hein, parce qu'on peut déambuler sur l'estuaire en bateau, on peut se promener en vélo, les reliefs ne sont pas trop violents, on peut évidemment parcourir ça aussi en voiture et faire des pauses. Il y a des petits bijoux comme l'église de Talmont, on en parlait tout à l'heure. On arrive aussi en Charente, comme la ville de Méché, où il y a un peu de relief justement et des falaises, qui sont des lieux aussi tout à fait merveilleux à découvrir. Et peut-être ce plaisir-là de la déambulation, la route de la Corniche, c'est pas très loin d'ici, à Bourg-sur-Gironde par exemple, avec quelques pauses sur l'estuaire qui permettent de respirer avec les marées justement, et à regarder un peu l'art de vivre local, comme les fameux carrelés qui font partie de cette identité estuarienne. Et prendre son temps, voilà, prendre son temps et se promener au petit matin ou à la tombée du jour, sont souvent les meilleures heures, en particulier pour la photo, bien sûr, mais aussi pour profiter de ces environnements-là. Quand on est sous un soleil de plomb, que ce soit à l'estuaire ou ailleurs, c'est plus difficile.
Bien.
C'est à toi, alors.
Alors, donc, je vais te poser des questions sur la suite, maintenant. Donc, est-ce que tu vas continuer à enseigner ou tu vas abandonner ce beau métier ?
Non, je ne l'abandonne pas. Je n'abandonne pas ce métier, non. Non, mais j'essaye, voilà, avec ce genre de projet-là, de marier les deux, c'est-à-dire de rester dans ce que j'ai appris à faire, ce que je sais faire, cette transmission-là, sur l'art, l'histoire et la géographie, et puis la photographie, et des projets éditoriaux comme ça me permet de le faire, donc Non, c'est plutôt bien de pouvoir faire les deux. Et donc, non, je vais continuer. Je vais continuer tant que c'est possible.
Donc, prochaine étape, un nouveau guide sur le...
Voilà, il y a une
Pays
commande. Ouais, il y a une commande. Alors, je vais aller un peu plus loin là, mais rester dans la région quand même, puisque le prochain livre, qui sera un peu ou prou sous cette forme-là, sera sur le Pays Basque. Donc, ne me demandez pas où je passe mes vacances cet été. Vous savez. Voilà. Le Pays Basque et le bassin aussi. Moi, j'ai quand même une affinité très particulière avec le bassin. Puisque j'y ai fait mes premiers pas, donc je vais aussi travailler un peu pour ce si fameux et délicat bassin d'Arcachon.
Projet photographique aussi dans d'autres domaines, donc il faut savoir, ton activité ne se limite pas à ce type de photos, donc tu travailles sur différents projets, notamment un actuellement dans ce lieu qui tient tellement à cœur, qui est la base sous-marine.
Absolument, alors là je vais en profiter du micro qui m'est tendu pour vous inviter à passer à la base sous-marine, mais sans tarder, c'est-à-dire là ce soir c'est trop tard, mais demain ou après-demain, puisque est actuellement présentée une exposition que j'ai accompagnée, une exposition d'élèves d'une classe de 3e qui ne sont pas mes élèves, puisque moi j'enseigne en lycée, une classe de collège qui a travaillé avec les anciens combattants et qui présente un travail photographique que j'ai accompagné donc sur la mémoire de la guerre, où les élèves livrent à travers leur photographie leur propre mémoire de la guerre en ayant pris en compte la mémoire transmise par des anciens résistants et déportés. Et c'est une exposition photographique qui présente à la fois les portraits que j'ai faits de ces anciens combattants, les portraits des enfants qui ont regardé ces anciens combattants leur parler, et en même temps les œuvres des élèves qui sont présentées sur des cimaises dans la base sous-marine à côté de l'exposition actuelle de Lichevalier. Il y a cette exposition qui reste au moins le week-end et qui sera peut-être prolongée. Et voilà, donc ça, si vous avez envie d'en profiter, c'est une accroche, une installation qui est très intéressante. Et c'est un travail qui est très abouti, où il s'est passé quelque chose entre ces vieux monsieur, puisqu'on a rencontré des hommes qui ont plus de 90 ans aujourd'hui, et ces très jeunes adolescents qui ont 14-15 ans, et entre eux, malgré l'extraordinaire écart d'âge, il s'est passé quelque chose et l'exposition de leurs travaux le montre, je crois, un petit peu. Donc, si vous cherchez la fraîcheur demain après-midi ou dimanche après-midi, vous m'y retrouverez d'ailleurs, parce que j'y serai sous les épaisses voûtes de la base sous-marine. Voilà. Donc ça, c'est une autre dimension de la pratique de la photo. Là, j'ai accompagné une classe, c'est un travail très intéressant, à la fois pour les rencontres avec les anciens combattants et pour mesurer ce que les adolescents actuels peuvent appréhender de cette période et accompagner aussi leur propre création, puisque dès le départ, l'objectif de ce travail, qui était un travail pluridisciplinaire de professeur d'histoire, d'art plastique et de musique, donc une dimension histoire des arts dans ce projet, il s'agissait pour eux dès le départ d'aboutir à la création d'une photographie plasticienne. Et donc ce sont ces photographies qui sont présentées à la base sous-marine depuis mercredi et jusqu'à dimanche, peut-être un peu après, mais au moins jusqu'à dimanche de façon certaine. Voilà, mais là on s'est un petit peu écarté du sujet.
Donc pour dire que dans ta pratique de photographe, donc que tu photographies des monuments ou bien des personnes en fait, donc l'idée d'apporter un regard sensible sur les gens ou sur les choses, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je crois.
Oui, alors ça c'est un peu difficile pour moi d'en parler, voilà.
Oui,
oui, j'essaye de porter un regard sensible et tu as un peu insisté sur le portrait, ça c'est une dimension forcément qui en photographie m'intéresse d'essayer de saisir les gens dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils donnent à voir. Voilà. Donc oui, j'ai aussi un peu à travers ça, mais ça, c'est, je dirais, ça le montre modestement parce qu'il y a quand même un cahier des charges qui est un guide touristique. Voilà. Donc ce n'est pas un livre de portrait, même s'il y a un petit peu quand même de l'humain à l'intérieur des forêts, des églises et des châteaux. Voilà. Et merci de votre attention. Très sage attention.
Merci à vous.
Merci.